Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. Très heureux de vous retrouver, surtout pour ce dimanche, parce qu'on a énormément de choses à vous dire. Bon réveil, vous savez quoi, on s'occupe de tout. Vous avez juste à mettre les tartines dans le grille-pain et ensuite, nous, on parle, on débat de sport et vous nous accompagnez toute la matinée. On est très heureux évidemment de vous retrouver au sommaire aujourd'hui. Alors forcément, la sublime victoire du 15 de France hier en Irlande, ce triomphe à Dublin, est-ce qu'il efface tout? On se posera la question, c'est la une des GG dans quelques instants. À 10h, dans deux jours, vous le savez, c'est le grand soir, Liverpool-Paris-Saint-Germain. Êtes-vous aussi optimiste que les Parisiens? Ce sera le bras de fer, et évidemment, les GG ne sont pas d'accord. Et puis 11h, nous reparlerons de cette historique Irlande-France et des choix de Fabien Galthié. A-t-il fait taire les critiques? Et vous allez voir, là aussi, les GG ne sont pas d'accord, sans oublier la blessure d'Antoine Dupont. Toutes les dernières informations sur la star du 15 de France, ce sera à 10h30. Les grandes gueules du sport ce matin, je voulais présenter justement une nouvelle GG à vous présenter, une grande gueule qui, comme Antoine Dupont, il a tout gagné. En même temps, quand tu joues au Stade Toulousain, c'est plus facile. Hein. Cédric Hébert, salut Cédric.
Bonjour.
Très drôle.
C'est une bonne entrée à toi. Hein. Bonjour, ah, c'est ça. Ah, oui.
J'avais oublié que les copains rugbymen ne font pas trop les chambrer en fait. Ça va Cédric?
Ouais, très très bien, merci, ravi d'être là. Un peu stressé, mais on va se détendre.
Oh, tu vas voir. Alors franchement, pareil, t'as juste à mettre les tartines dans le grille-pain et nous on s'occupe de tout. Tu vas être incroyable, je le sais. Alors Cédric Hémans, vous débarquez peut-être d'une autre planète, si vous avez besoin un peu de présentation. Deux fois champion de France, je le disais, quatre fois champion d'Europe, 59 sélections avec le 15 de France. Il y a quoi? Il y a trois tournois destination.
C'est ça.
Finaliste de la Coupe du Monde en 2011. Bref, une pointure. Une star. Ça nous change, que nous on a Denis Charvet d'habitude.
Là, ça nous change. C'est pas, je dirais rien. Pour l'instant. Pour l'instant.
Je me doute bien, les copains toulousains. Une grande gueule qui, contrairement à Antoine Dupont, il n'a pas tout gagné. Bon, en même temps, quand tu ne joues pas au Stade Toulousain. Philippe Saint-André, salut Philippe.
Salut JC, salut à tous et puis bienvenue à Cédric. Il ne faut pas oublier Cédric qui a marqué un des plus beaux essais individuels contre les All Blacks. Il a fait un cadrage débordement. Le mec, il s'est assis. Et cet essai pour moi est dans ma mémoire.
C'est gentil.
Ouais, sinon c'est vrai.
La peur peut faire des trucs incroyables.
Vous avez bossé ensemble les copains quand même.
Oui, je l'ai entraîné avec les Barbarians britanniques.
Alors entraîné est un grand mot, mais il nous a accompagné, je l'ai accompagné sur cette tournée-là.
Oui, il était géo quoi.
Ouais, j'étais géo aussi.
Ok. Bon, en tout cas, je sais qu'on va se régaler avec vous ce matin. Surtout, vous avez beaucoup de choses à nous apprendre après cette victoire magnifique du 15 de France. Une grande gueule qui, comme Antoine Dupont, pas sûr qu'on le revoie ces six prochains mois. Simon Dutin, salut Simon.
Salut JC, salut les gars. Ben oui, un chien dans un jeu de quilles, tu vois, comme on dit. Bon, après, Cédric m'a beaucoup ému lorsqu'il était joueur, tu vois. Il m'a souvent mis les larmes aux yeux avec ses essais. Je vais essayer d'y aller mollo, du coup, en débat pour le. Voilà.
On rappelle que t'es quand même supporter de l'UBB ou pas?
L'UBB, mais j'aime bien le Stade Toulousain, moi.
Ah oui,
comme en tennis, j'aime bien Federer, en basket, j'aime
bien ceux qui gagnent.
Michael Jordan, tu vois.
Oui, c'est plus facile, t'as bien raison. Et puis une grande gueule qui, comme Antoine Dupont, s'est déjà demandé si son équipe n'était pas meilleure sans lui. Pascal Dupraz, salut mon Pascal.
Bonjour Jean-Christophe, salut messieurs,
salut,
bienvenue à Cédric, c'est un plaisir d'être avec vous. Il y a du lourd là ce matin, ça va filer.
Ah, oui.
On va s'employer ce matin.
Ah oui, là franchement, j'avoue, moi j'ai révisé toutes mes vannes. Hein. Je me suis dit, est-ce que j'attaque fort, pas fort? Tu me connais Pascal, hein. Je suis courageux, mais pas trop. Toi, t'es à distance, donc je peux y aller.
Ouais,
puis les autres.
Je peux y aller. Voilà.
Exactement. Alors sachez, chers auditeurs, que pour vous, il y a un très très beau cadeau à gagner ce matin dans cette émission. Vous pouvez remporter vos places pour le match de clôture du tournoi Destination. Et vous savez quoi? C'est une grande finale pour le 15 de France en cas de victoire. Et c'est la victoire dans ce tournoi Destination France-Écosse. C'est samedi prochain à 21h au Stade de France. Pour remporter deux places, on a déjà fait gagner deux places hier, hein. Vous envoyez rugby dès maintenant au 732-16. Rugby au 732-16. Et si dans la matinée vous recevez un coup de fil, vous décrochez parce que c'est nous, c'est Amina au standard. Et vous venez de remporter deux places et vous serez en direct avec nous dans cette émission. Allez, on va débuter avec un proverbe irlandais. C'est de circonstance pour débuter notre premier débat. Voici ce qu'il dit, ce proverbe irlandais. Vos pieds vous guideront jusqu'à l'endroit où se trouve votre cœur.
RMC,
la une des grandes gueules du sport.
C'est parti entre l'Irlande et la France. Allez, on avance en crabe, mais on avance vers la ligne, on avance bien, il y a avantage. Allez, 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 ce ballon qui est sorti dans le fermé, Dupont, l'extérieur, bien, bien, ouais, c'est ça. Oui, Louis Boudéan, essai de Boudéan. Il faut revoir ça sur Barassi. Essai de Boudéan, le deuxième essai des Bleus après celui de Bielbiaré. On est à 2 mètres maintenant. On continue le marteau pilon avec Gégou à nouveau qui est venu dans l'axe.
On leur fait mal, ouais.
Et qui repart. Attention, c'est raté. Essai de Gégou. Essai de Gégou qui est parti au ras. Son premier essai en équipe de France. Alors, l'interception de Ramos. L'interception de Ramos. Il a Penaud à côté de lui. Est-ce qu'il va y aller? Il a un Penaud. Il va égaliser Blanco. 42-27 pour l'équipe de France ici à Dublin. 5 essais marqués, un bonus offensif, 2 points d'avance au classement du tournoi Destination et le destin en main face à l'Écosse.
Ah, les frissons toujours en entendant nos commentateurs. Wilfried Templier, Denis Charvet, Christophe Cessieux hier à l'Aviva Stadium. Un succès historique, oui, 42-27. 5 essais marqués, le bonus offensif évidemment dans la poche. Les Bleus ont marché sur l'Aviva Stadium dans des proportions, il faut bien le dire, inimaginables. C'est d'ailleurs la première fois dans son histoire que le 15 de France inscrit plus de 40 points dans ce stade. Le tout sans sa star, sans son étoile, sans son phare, son guide, son capitaine Antoine Dupont. Sorti sur blessure à la 29e minute, on en reparlera à 10h30. C'est en tout cas une victoire éclatante pour les hommes de Fabien Galthié qui s'offrent désormais une grande finale samedi prochain à domicile face à l'Écosse. Le deuxième mandat du sélectionneur vient peut-être de basculer après une année 2024 moyenne, on l'a assez souvent répété, et cette défaite à Twickenham en début de tournoi. La musique qui fout les jetons est cette question. Ce triomphe à Dublin efface-t-il tout? Oui ou non? Simon Dutin.
Non.
Pascal Duprat.
Oui, presque.
Philippe Saint-André.
Non.
Cédric Emmons.
Non.
Plutôt non pour les copains du rugby. Je vais vous donner la parole dans quelques instants. Avant de débattre, on va retrouver notre commentateur Wilfried Templier en direct de Dublin. Salut Wilfried.
Salut tout le monde.
Il n'est pas fermé le pub encore? Il rentre bonjour juste Cédric. Peut-être. Bonjour Wilfried, il rentre salut. Juste peut-être.
Oui, exactement. Alors quels étaient les...
Je suis passé au Charvet moi.
Oui. Toi t'as un boulot, c'est ce que tu veux dire, on a bien compris. Alors quels étaient les mots des Bleus après cette victoire historique?
Alors tu l'as dit, ouais, succès XXL, mais ils ont littéralement fait plier l'Irlande, plus de 40 points et 5 essais marqués. Ce qui est assez rare dans cette forteresse dublinoise quasi inviolable du coup. Le troisième ligne, Anthony Jelonge, savoure.
C'est une de nos plus belles victoires depuis maintenant 6 ans. C'est mettre 40 points ici à Dublin, ça arrive pas tous les ans et ça arrive pas à beaucoup de monde. Et ce soir, on a su les mettre, on a su faire ce qu'il fallait. Et on veut toujours faire des gros matchs et ce soir, on l'a fait. On a montré notre vraie équipe, notre vrai visage. Et franchement, dominer les Irlandais comme ça à Dublin, hein, ils avaient fait tout pour faire une grande fête et entre guillemets, on leur a un peu gâché. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était ça, quoi. C'était gagner ici et que ça reste dans les mémoire.
Ça a plutôt marché. On a retrouvé cette équipe de France dominante en fait d'il y a plusieurs mois, celle du Grand Chelem de 2022 par exemple. Donc c'était un moment qui compte après la déception de la Coupe du Monde en France et l'élimination en quart de finale. C'est l'avis du talonneur Peato Movaca.
On sait tous l'impact psychologique que ça a eu dans nos têtes, même si on se le disait pas, mais voilà, ça a foutu un gros coup au moral et on avait besoin de grosses victoires, de gros matchs comme aujourd'hui.
Avant l'Écosse la semaine prochaine pour le titre et même sur la route de la Coupe du Monde en Australie dans 2 ans, c'est un vrai tournant, ajoute le demi-mêlée Maxime Lucu.
Ben, ça en est un dans le sens où on est en capacité et en position de pouvoir gagner quelque chose samedi prochain. Donc déjà ça, ça change énormément parce que depuis le début du mandat, on n'a gagné que le Grand Chelem en 2022. Donc forcément, on est en bonne position. Donc le tournant, il est là. On savait que le match de l'Irlande nous permettait de rester dans la course à pouvoir gagner quelque chose. Aujourd'hui, on a encore rien gagné. En tout cas, dans l'état d'esprit, dans la capacité à être en groupe, on a montré énormément. Donc maintenant, il faut valider la semaine prochaine, essayer de gagner quelque chose. Et après, peut-être qu'on parlera, mais c'est encore loin, la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, de gagner un titre, ça ferait énormément de bien au groupe et à l'équipe de France après tout ce que voilà, on a vécu de difficile depuis la Coupe du Monde.
Voilà, valider ça en battant l'Écosse samedi au Stade de France, simplement, hein, pas besoin de bonus pour, comme à Dublin aussi, voir les supporters français sauter.
Et c'est vrai que les supporters ont fait du bruit hier à la Viva Stadium. Merci beaucoup Wilfried Templier, tu restes avec nous pour ce débat. Ce triomphe à Dublin efface-t-il tout? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. J'ai beaucoup de noms dans le studio, ça me surprend quand même. Philippe Saint-André, pourquoi non?
Ben, ça peut pas effacer ce quart de finale de la Coupe du Monde. On jouait à domicile,
c'était en France. On avait mis les plus gros moyens du rugby français. Les clubs avaient fait des efforts incroyables, la Ligue aussi avec la Fédération pour mettre à disponibilité les joueurs. Et donc, on avait tout mis en place pour être champion du monde. Donc ça, on peut pas l'enlever. Par contre, cette victoire...
Mais attends, pardon, juste, je te coupe. Hein, mais le deuil, on le fait quand alors?
Non, on va le faire quand, ce deuil? Mais tu dis effacer, ça peut pas tout effacer. Par contre, ça donne des perspectives incroyables sur la suite, sur le fait qu'ils sont capables, sur une année impaire, de gagner le tournoi des Destinations. Et je le disais hier, et d'être à 2 ans de la Coupe du Monde une des équipes favorites avec les All Blacks. Donc là, tu t'aperçois que ce groupe a pris de la maturité. Les 20 premières minutes contre l'Irlande hier, c'était dur. Ils se sont adaptés. Ils ont fait un 14 sur le premier rideau avec que Ramos qui défendait sur le deuxième, troisième rideau, ce qui est nouveau. Ça veut dire qu'il y a une adaptation sur la stratégie, parce que on a pris des rafales. On a fait pratiquement 200 plaquages hier, alors que les Irlandais, on en fait que 90. Donc il y a une vraie évolution. Et ce match-là, 5 essais, une belle victoire, c'est exceptionnel. Mais tu ne peux pas effacer ce quart de finale de Coupe du Monde.
C'est pas la même compétition. On peut pas comparer un tournoi des destinations à une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, c'est un événement qui arrive tous les 4 mois. Tu te prépares.
4 ans.
Quatre ans. Tu as tes joueurs à disposition. Tu peux travailler. Cette Coupe du Monde était un échec. Là, le tournoi a failli être un échec en perdant en Angleterre. Et là, c'est le match qui bascule peut-être dans une autre dimension et ce qui va permettre à cette équipe de France de se projeter. Mais ils le disent tous, quand on entend 80% de victoires, les joueurs, ils veulent gagner. Movaka a dit, on veut gagner quelque chose. Les équipes, elles se construisent uniquement dans la victoire et dans les trophées.
Mais c'est fou parce qu'on entend même les joueurs le dire et parler encore un petit peu de la Coupe du Monde. En tout cas, il y a beaucoup de sous-entendus, comme si c'était quand même il y a 1 an et demi. On est encore là-dessus, alors que depuis, l'équipe de France a gagné face à l'Angleterre, a gagné aussi face à la Nouvelle-Zélande. Enfin, je veux dire, il s'est passé des choses depuis.
C'est un traumatisme incroyable. Quand tu prépares pendant 4 ans, que tu as une Coupe du Monde à domicile, que les mecs, en plus, ils se préparaient pour être champion du monde ou pour aller en finale, et tout d'un coup, tu perds un point en quart de finale et que tu rentres chez toi, tu prends une massue, c'est 4 ans d'un projet, 4 ans d'un projet de vie, donc c'est compliqué. Et tu as pu voir que ces joueurs ont mis pratiquement 1 an après pour digérer cette Coupe du Monde.
Bon, ce triomphe à Dublin, est-ce qu'il efface tout? Pascal Duprat, pour toi, c'est oui.
Oui, presque tout. Donc, je suis d'accord avec vous. Ça n'effacera pas la défaite en Coupe du Monde. Ça, c'est certain. Mais toujours est-il qu'il me semble que c'est l'acte 1 de la nouvelle ère, du projet du sélectionneur Fabien Galthié. L'Angleterre, par exemple, la défaite en début de tournoi, c'est effacé grâce à cette victoire contre l'Irlande. On se souvient contre les Anglais. Bon, c'est presque hasardeux que les Anglais gagnent. Si les Français avaient été un tout petit peu plus justes techniquement, ils l'auraient sans doute emporté. Non, on s'aperçoit que cette équipe, et on le dit depuis longtemps, elle regorge de talent, elle se renouvelle aussi, c'est l'art de Galthié et de son staff. Et puis hier, ils ont atomisé les Irlandais comme on n'osait même pas l'espérer. Donc définitivement, la Coupe du Monde, pour ma part, je pense qu'elle est tournée, ils sont résolument direction l'Australie, 2027, et cette équipe, elle est promise à un avenir hégémonique, tant cette équipe a balayé les Irlandais hier. C'est mon point de vue, je le défends, je vais le défendre avec vous pendant encore un moment, allez-y.
Pendant 2 ans et demi, j'ai juste envie de dire amen.
Bravo, mais c'est l'acte 1, c'est-à-dire que le passé reste le passé, on peut pas oublier ce qui s'est passé. Maintenant, il faut construire dessus, capitaliser dessus. Alors Pascal, oui, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être l'acte 1 d'une nouvelle histoire, mais il faut effacer. Donc peut-être à nous d'arrêter d'en parler. Est-ce que les joueurs entre eux, ils en parlent?
C'est toi alors.
C'est pas moi qui dis ça. Hein, c'est Wilfried Templier.
J'ai compris. Je l'ai sur distance. Je l'ai sur portable. Je vais le régler après.
Okay,
je vais
le régler après.
Dans la Coupe du Monde précédente, on disait toujours la même chose. Et après, et après, et après. Donc et après, on parle toujours du passé et peu de l'avenir.
Quand je parle d'effacer tout, on parle aussi de ce match en Angleterre. Est-ce que c'est la preuve, Simon, que ce match en Angleterre, c'était juste un accident et pas une énième défaite d'un point de cette équipe de France, parfois un peu fragile?
Oui, alors moi j'ai été suffisamment critique, je sais qu'on va en reparler à 11h avec Fabien Galthié, dont pourtant je défends le bilan. On va reparler de sa communication, son mysticisme et tout, qui m'agace parfois un petit peu, mais moi je refuse le catastrophisme et toujours considérer vrai que cette Coupe du Monde, ce quart de finale, tu revois le match, il y a deux fois le ballon qui rebondit dans le mauvais sens. Bon, ben ça peut arriver. Le match contre les Anglais, tu le rejoues 30 fois, tu le gagnes 30 fois. Il y a trop d'en avant, de ballons échappés. Mais moi, je refuse le catastrophisme. Quand je dis il y avait rien à effacer il y a 15 jours, j'ai défendu Galtier en disant bon, faut être un rugbyx pour qui tu veux mettre à la place de Galtier. Comment peut-on se poser la question de changer de sélectionneur? Je considère que la piste d'élan, le sautoir, était trop court pour la Coupe du Monde chez nous, bien qu'elle soit chez nous, qu'on ait fait des efforts. Je pense que le vrai horizon pour aboutir, tu vois, à un chef-d'œuvre de Galtier, c'est en effet l'Australie 2027. Donc, à ce titre-là, oui, on est rassuré. Bon, personne n'imaginait qu'on leur mette une raclée hier, mais on n'a rien à effacer. Au contraire, on a écrit une nouvelle ligne de cette histoire qui, je l'espère, va se terminer en 2027. On a eu du vintage. Voilà, Galtier, on prenait trop de points depuis 2-3 ans. Voilà, on l'a construite sur une défense héroïque. Vintage 15 de France, j'ai envie de te dire. Une défense héroïque. Et puis, au bout d'un moment, quand tu secoues la bouteille de ketchup, ça finit par arriver. On les a essorés et on a gagné. On reviendra aussi sur cette équipe d'Irlande qui n'est plus tout à fait la même sans Sexton, qui avait déjà préparé la salle des fêtes pour le jubilé de Murray, O'Mahony, Ili.
Ouais, ils étaient trois. Ils étaient
trois. C'est trop peu d'avancer la retraite de Sexton pour justifier la victoire des Français hier.
Bah d'accord, mais si Pendergast, il est aussi fort que Sexton, mais il n'y a pas de problème. Si
l'Irlande sort d'Irlande, c'est trop peu.
D'accord, et si l'Irlande sort d'accord,
simplement dire que l'équipe de France, elle donne des émotions incroyables.
Une fois qu'on a dit ça, les émotions contre une équipe qui, les Irlandais,
elle est tellement dominatrice que ça nous donne, comment dire, l'envie d'être toujours critique. Mais cette équipe, elle est extraordinaire. C'est une des meilleures équipes de France de tous les temps.
Je suis en train de te dire que l'Irlande d'hier, elle est moins forte que l'Irlande d'il y a deux ans. Voilà, c'est mon avis. Quand tu joues à concasser devant et qu'à un moment, il faut élargir, quand t'as pas des ailiers, tu te rends compte que les ailiers, ça peut servir. Voilà ce que je dis.
Je pense
qu'avec Lowe et avec Hansen, ils auraient été plus dangereux.
Respecter l'Irlande, c'est dire que elle domine depuis quelques années aussi et qu'elle a le droit, comme c'est le cas pour toutes les nations, eh bien, d'opérer un renouvellement, de voir des cadres vieillissants.
Mais l'équipe
de France a cette constante qui nous fait penser qu'elle va tout gagner dans les années à venir.
Les Irlandais, ils ont fait quoi la dernière Coupe du Monde? Parce que visiblement, ils sont encore au sommet du rugby mondial. Nous, on était au fond du trou parce qu'on sort en quart. Et eux, ils sont sortis où en Coupe du Monde? Je comprends pas.
Parce qu'en Coupe du Monde, ils réussissent jamais, les Irlandais.
Ah, d'accord. Et nous, on réussit toujours, c'est ça?
Je reprends la main. Je pensais pas qu'on allait.
Simon, il m'attaque d'entrée.
C'est toi qui m'agresse parce que qui va sur l'émotion d'une victoire en Irlande. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'émotion. J'ai pas dit qu'on n'était pas content.
Très bien. Juste, je pensais pas qu'on s'embrouillerait sur l'Irlande. Mais on a droit. Philippe.
C'est une performance triple XL de l'équipe de France hier, bien sûr.
T'es plus le sélectionneur ici. C'est pas le poli. Je reprends la main, les copains. Moi, j'ai aussi envie de m'arrêter sur cette victoire en vous demandant, parce que on fait une émission comme si on n'était pas surpris. Moi, à titre personnel, mais j'ai pas votre science, évidemment, je suis extrêmement surpris de cette victoire hier dans ses proportions. Donc, je vous pose la question dans quelques instants. Est-ce que cette équipe de France vous a impressionné hier? Oui ou non? Ce sera très simple. À tout de suite sur RMC. Évidemment, vous participez au 32-16 à notre débat. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h32 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Philippe Saint-André, Cédric Emmons pour sa première émission avec nous, Pascal Duprat, Simon Dutin. Évidemment, on débrief la magnifique victoire du 15 de France face à l'Irlande. On en parlera tout au long de l'émission à partir de 10h30. On vous donnera toutes les dernières informations concernant Antoine Dupont. On se demandera aussi si les Irlandais n'ont pas fait exprès. À 11h, on parlera de Fabien Galtier. Mais à partir de 10h, on ouvre le chapitre Paris Saint-Germain à deux jours de ce match face à Liverpool. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que les Parisiens? Mais restons un instant donc sur ce triomphe à Dublin. Wilfried Templier, je te donne la parole. Vu du stade, vu de l'Aviva Stadium, est-ce que tu as senti une confiance, une impression extraordinaire de ce 15 de France, toi qui as l'habitude de les voir évidemment à chaque fois du stade?
Bah, ils ont peut-être gagné le match dans le premier quart d'heure, dans le temps faible, gros temps faible qu'ils ont eu, le gros temps fort irlandais, où on n'a pas pris de points. Mais après, l'impression que ça m'a donné, c'est que le plan a fonctionné à merveille, en fait. Parce que cette équipe de France, là où elle progresse, c'est qu'elle a appris de ses erreurs et des matchs d'avant. On avait des soucis en défense. On était plutôt du 70% de réussite au plaquage, ce qui est assez faible à ce niveau international et ce qui n'est pas dans les standards de cette équipe. Et hier, c'était 90%. Donc, le plan défensif était très bon. Et souvenez-vous, on a beaucoup parlé du 7-1 du banc avec 7 avant et un seul 3 quarts qu'ils ont. Et en fait, ils ont préparé leur exploit. Ils l'ont préparé en Italie. Et vous avez vu devant la télé, mais nous, c'était très impressionnant. On les a fendus en deux, en fait, hein, devant. Et le rugby, c'est simple. Hein. À partir du moment où nous avons, on en parlait à Lucu. Quand j'ai dit à Brian Maxime Lucu, il m'a fait un énorme sourire. Ça doit être sympa de piloter le jeu derrière les avants comme ça. Il a hoché la tête avec un grand sourire. Il a dit, il y a eu quelques chocs. Voilà. Donc, ce plan des 7 avants, ça fait exploser les Irlandais, en fait, hein, le pack irlandais. Et nous, on a vraiment un Panzer, là, avec ses avants, un peu à la sud-africaine. Donc, tout ça a été réfléchi, pensé, même la défense, couper les extérieurs. Voilà, ils n'ont jamais pu mettre en place leur jeu comme de cellules comme ils le font d'habitude. Donc, le plan était parfait. Et voilà, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup bossé et qu'ils se sont adaptés. Donc c'est très encourageant, je trouve, parce qu'elle évolue, cette équipe de France.
Mais tout de même, il y a des vents contraires dans cette rencontre. On a parlé des 15-20 premières minutes. On se fait pilonner par les Irlandais. Quand Dupont sort, il y a 3-0 à ce moment-là pour le 15 de France.
5-0.
5-0. Enfin, je veux dire, c'est rien. On se dit que tout va basculer. Peut-être que tout va tourner. Est-ce que cette équipe de France vous a impressionné? On en a déjà vu des victoires historiques. Il y a eu Twickenham il y a 2 ans. Il y a eu face à la Nouvelle-Zélande où on s'est habitué à les gagner. Est-ce qu'ils vous ont impressionné, Cédric?
Moi, oui, ils m'ont impressionné, c'est dans leur capacité à pas céder dans les 15-20 premières minutes. Philippe l'a dit, ils ont mis un gros rideau défensif, on était passé à côté dans ce tournoi au niveau de la défense, surtout au milieu du terrain, on est monté très haut, on a fermé, Bielbiaré est venu à des moments coupés très fort sur l'avant-dernier joueur irlandais, ce qui nous a permis de gagner des mètres et après de se débarrasser du ballon au pied. Oui, dans ce secteur, ils m'ont impressionné. Après, oui, ils m'ont un tout petit peu moins impressionné, c'est quand on a le ballon. Quand on a le ballon, ça a été la première attaque au bout de 20 minutes dans le camp irlandais. Ben, elle ressemble à pas grand-chose. Les ballons sont jetés, ils savent pas trop où ils vont. Et on a fait de la défense et de l'occupation.
Okay. Alors,
est-ce que je commets un crime en disant que... Bon, alors, ça, tout le monde...
Vas-y, commets le crime tout de suite. Tu
ouais,
vas,
non, je vais y aller, les deux pieds dans le plat. Non, mais il n'est pas, évidemment, tout le monde en parle depuis hier, interdit de penser que, tu sais, il y a une union sacrée, une remobilisation, tu vois Dupont qui sort, machin, les mecs, machin. Il n'est pas interdit de penser que l'entrée exceptionnelle de Maxime Lucu, qui a un profil, vous en conviendrez, les gars, un peu différent d'Antoine Dupont, il a fait une entrée absolument remarquable. Le coup, c'est un peu le demi de mêlée à l'ancienne, quoi. Et il a fait un match extraordinaire dans la vitesse à laquelle il a,
animé le jeu. C'est quoi le crime?
Le crime, c'est de dire que peut-être que les Irlandais et nos adversaires en général, finalement, adaptent un petit peu le logiciel à Antoine Dupont qui porte un petit peu plus le ballon qu'un neuf classique, qui a un talent extraordinaire.
Le crime,
avec un demi de mêlée à l'ancienne qui a animé le jeu d'une façon extraordinaire, peut-être qu'on a surpris les Irlandais et peut-être qu'on n'aurait peut-être pas gagné dans d'aussi grandes proportions avec Dupont sur le terrain.
Ok, mieux dit, est-ce qu'avec Dupont on aurait gagné? Allez, je vous balance la patate chaude.
Mais bien sûr, parce que à part les 20 premières minutes, après on leur a marché dessus, on a gagné tous les impacts, on a avancé en permanence. Lucu a été exceptionnel, mais il a été exceptionnel parce que chaque impact on avançait. Donc ces sorties de camp ont été très bons, ils trouvaient des touches de 40-45 mètres, mais parce que tu avances sur les impacts, si tu es sur le reculoir, si tu es obligé d'avoir 5-6 joueurs dans le ruck et qui t'a une pression énorme, tu trouves des touches de 15 mètres. Moi, j'avais annoncé, j'étais sûr que la France allait gagner. Pourquoi? Parce que c'est une génération incroyable, qu'ils avaient annoncé avant le 6 Nations, on en a marre des 80% de victoires. On veut gagner des trophées. Ils étaient passés à côté à Twickenham sur un match imperdable en faisant 30 en avant, 4 occasions d'essai où on fait en avant sur la dernière passe. Et là, ils étaient en mission, ils étaient énervés. Ils
mais ont pas dit... dans ces proportions quand même, Philippe. Si non, vous pouvez l'imaginer,
je ne pensais pas qu'on allait gagner avec le bonus offensif. Parce que là, marquer 5 essais, mais je pensais vraiment qu'ils allaient le gagner et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait avec une envie. Parce que On leur a mis des tampons, ils ont dégueulé des ballons, ils avaient plus de solution. Aki, pourtant, qui est le seul qui les fait avancer, ils ont été obligés de le coacher. À la 60e minute, on a été vraiment en mission. Mais après, surtout dans du jeu, voilà, dans du jeu de plaquage, dans du jeu de stratégie,
dans du jeu de destruction. Et c'est peut-être la leçon qu'on a appris de la Coupe du Monde. L'Angleterre, t'avances pas. Hein.
Okay.
L'Angleterre, tu fais jouer Antoine Dupont, mais il est chassé. Mais t'avances pas. Là, t'avances parce que physiquement, bah, tu leur casses la figure.
Pascal Duprat.
Ouais, moi, ce qui m'a bluffé, c'est au retour des vestiaires, parce que les Irlandais, je crois, reprennent le score. Et tout d'un coup, à partir de là, l'équipe de France, tout ce qu'elle avait fait au préalable, en première mi-temps, le fait de broyer les Irlandais, de résister, de formidablement bien défendre, ben ça a fait que il y avait l'impression, en tout cas, devant mon écran, que l'équipe de France était seule et que les Irlandais étaient complètement cuits. À partir du moment où ils marquent l'essai en début de deuxième mi-temps, les Irlandais, ils n'ont plus existé. Et ça, réellement, avec la blessure de Dupont, avec le fait que Lucu qui rentre, c'est pas évident de remplacer le meilleur joueur du monde, qu'il a fait magistralement, quoi qu'on en dise, même s'il était derrière un pacte souverain. Mais à partir de là, l'équipe de France, elle était incroyable, quoi.
Ouais, mais là, 34 tu vois,
points comme tu le dis, c'est incroyable.
Voilà. Pascal, où tu vois que tu domines énormément, les Irlandais normalement ils prennent pas deux cartons jaunes à domicile, ça arrive jamais. Là, pendant 20 minutes, ils ont joué à 14 contre 15. Pourquoi? Parce qu'ils subissaient, parce qu'on était avant eux sur chaque zone de ruck, sur chaque impact, et donc ils ont subi. Comme quand ils ont perdu contre la Nouvelle-Zélande au mois de novembre, c'est exactement du copier-coller des All Blacks. On les a pris exactement pareil.
Je voudrais revenir sur cette phrase de Cédric Clément. Est-ce qu'on est devenu l'Afrique du Sud? Ça, c'est ma première question. Et est-ce qu'on est devenu un mélange d'Afrique du Sud et de French Flair, avec, quand on voit les essais de Louis Bilbaré, qui sont pas des essais préparés, je veux dire, on s'appuie sur du génie. Est-ce qu'on est un mélange de ça? On est devenu l'Afrique du Sud avec notre côté French Flair du 15 de France.
Pourquoi on serait pas une équipe caméléon capable de s'adapter aux équipes? On sait que dans notre ADN, on aime porter le ballon, on veut jouer comme à l'époque des grandes équipes de l'équipe de France. Mais pourquoi cette équipe serait pas avec le 7-1
une équipe complète?
Voilà, on n'y reviendra pas, mais sur le risque qu'on comprend en faisant 7-1. Mais en tous les cas, avec 7-1, 7 avant, ça permet d'être des panzers et de casser la bouche à tout le monde sur le terrain, parce que tu domines physiquement. Et que ça soit Antoine Dupont ou Lucu, et qui fait une rentrée remarquable, il est plus facile d'avancer dans un sport de combat et de pouvoir distribuer les ballons avec un Demeafou qui arrive lancé, qui met tout le monde sur le cul, et après avoir Ntamack qui distribue le jeu. Parce que nos essais, ils sont pas construits. Nos essais, ils viennent de relance, de jeu au pied, où on a Bielbiaré qui a un super pouvoir. Dès qu'il met un ballon rasant, il arrive plus vite que tout le monde. Mais il faudrait peut-être se l'avouer. Voilà, il faudrait peut-être se l'avouer qu'on est peut-être une équipe caméléon. On essaye de posséder le ballon, on n'y arrive pas toujours. Dans la dépossession, on est plutôt habile.
Et puis moi je veux bien, mais ça fait 35 ans que j'essaie de comprendre ce jeu. Non, mais Wilfried le disait tout à l'heure avec un peu d'ironie, en fait, au rugby c'est simple, quoi. Si tes avants dominent les avants d'en face, que tu remportes les combats au sol, ça laisse de la liberté, voilà, à tes ailiers, un peu un petit temps d'avance qui te permet d'aller.
Il y a une belle trouvaille quand même, c'est Guillard, le second ligne, trouvé exceptionnel. Il a gagné chaque duel, il met une vitesse et une intensité sur chaque prise de balle.
Ah, moi, c'est Barassi que j'ai adoré hier.
Il a éteint la lumière à la 46e minute.
La différence sur ce match, c'est qu'on a plaqué très bas, on les a fait tomber. Ils n'ont pas pu enchaîner, comme disait Philippe. Un en bas qui plaque, qui fait tomber, un qui gratte ou pas, parce que on a senti qu'ils avaient ciblé les zones de ruck, les rucks où on peut y aller, les rucks où on peut pas y aller. Donc ça veut dire qu'on s'étale sur la largeur. Et là, dans cette gestion-là, on a été très bon, parce qu'on a coupé les cellules irlandaises. On les a vus pendant 20 minutes jouer, faire des redoublés, mais ils avançaient pas. Et je crois que c'est là on l'a gagné défensivement, ce match-là.
Pierre nous appelle au 32-16, il veut réagir à notre débat. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous.
Salut Pierre.
Merci d'être avec nous. Ce triomphe à Dublin efface-t-il tout? C'était notre question de débat, et puis de départ, et puis évidemment, on a fait évoluer ce débat. T'en penses quoi?
Alors moi, déjà, par rapport à ce que vous avez dit, à un moment, il faut arrêter de regarder le passé et avancer. C'est bon, si on se refait la Coupe du Monde, on va pas s'en sortir. Après, par rapport à la victoire, ce qui a changé, c'est le carton jaune à la 45e. Parce que on peut pas dire que quand on revient à la mi-temps, que les Irlandais marquent l'essai, on se dit bon, on va gagner derrière. Celui-là qui dit ça, alors je suis un fou. Hein. Et après, le carton jaune des Irlandais et les 5 changements de Fabien Galtier, derrière, c'est un massacre. Hein. Bravo à la France.
Hein. Oui, mais je suis assez d'accord. Hein. Franchement, à la 43e, quand il y a l'essai irlandais, à ce moment-là, personne ne se dit on va leur rouler dessus.
Non, parce que là, j'entends, vous dites oui, c'était sûr, on allait gagner. Celui qui me dit après, au retour des vestiaires, oui, on était sûr de gagner, c'est un menteur. Hein.
Ah, est-ce que Philippe est un menteur? On va lui demander tout de suite. Philippe s'entendrait.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette équipe s'était préparée pour gagner en Irlande. Alors oui, les matchs de très haut niveau, surtout en Irlande, tu sais que ça se joue sur des petits détails. J'en ai parlé, moi j'ai dit bon, les Irlandais ont joué 20 minutes à 14 contre 15, ce qui n'arrive jamais à Dublin. Et c'est vrai que entre le carton jaune et le banc, les 6 avant qui sont rentrés, eh ben pendant 20 minutes on les a dominés de la tête et des épaules.
Juste un oui un non, les copains, rapide. Est-ce que c'est la plus belle victoire de l'ère Galtier là?
Non.
Ce que vous avez vu hier, non? Pourquoi? C'est quoi? Pourquoi
Twickenham, les 50 points.
Ok, c'est Twickenham. Cédric?
Oui, acte 1 d'une nouvelle histoire.
Oh, ok, très bien. Pascal, c'est la plus belle victoire?
Oui.
Ok, oui aussi. Merci Pierre d'avoir été avec nous au 32-16. Et merci à Wilfried Templier, évidemment, de nous avoir fait vivre hier ses émotions en direct de la Viva Stadium. Wilfried, évidemment, on te retrouve samedi prochain au Stade de France.
Toute la semaine, tous les jours.
Oui, il y aura le Moscato Show demain. D'ailleurs, vous allez voir, je vous en parle tout à l'heure. Il y a un week-end, enfin plutôt une semaine extraordinaire sur RMC. Voilà. Donc franchement, posez la semaine, n'allez pas au boulot parce que vraiment, il faut nous écouter. Ça va être absolument incroyable. Merci Wilfried. Et je te confie une nouvelle fois samedi prochain, Christophe Cessieux. Hein, d'accord, la garde alternée continue. Ah si, je te le laisse. Il avait l'air d'être très bien avec toi. Merci mon cher Wilfried. On reparlera évidemment.
Bon retour Wilfried.
Du 15 de France, à partir de 10h30, on vous donnera les dernières informations concernant Antoine Dupont. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour On s'en fout, on s'en fout pas, et notamment la défaite surprise de l'OM hier à domicile. À tout de suite.
RMC, 9h midi. Et grande gueule du sport.
Il va repousser le dos.
Jean-Christophe Drouet.
Ah, c'était en 2009. Ça nous rajeunit pas, madame. Dame, hein. Cédric Evans face à la Nouvelle-Zélande et cet essai absolument magnifique. Philippe nous en parlait en début d'émission. Ben oui, on l'a retrouvé, cet essai de Cédric Evans. Vous voyez, les commentateurs étaient dans une cave à l'époque, mais on arrive quand même à distinguer le nom de Cédric Evans qui est avec nous.
L'image était en noir et blanc.
Toujours plus. Philippe Saint-André est également avec nous. Là, à cette époque-là, on n'avait même pas les images. Pascal Duprat, Simon Dupré. Putain, les grandes gueules du sport, à partir de 10h, on ouvre le dossier PSG à 2 jours du match face à Liverpool. Êtes-vous aussi optimiste que les Parisiens? On vous invite à participer à notre discussion sur le compte X des grandes gueules du sport. C'est extrêmement serré et vous allez voir, ça divise également dans le studio RMC. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est la défaite surprise de l'OM à domicile. On s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Ouf, c'est...
Non, on s'en fout
c'est
pas.
Limite,
on s'en fout
pas. Hein. Cédric Emmons.
On s'en fout.
On s'en fout. Bravo pour la première. Philippe Saint-André.
On ne s'en fout pas.
On s'en fout pas, Pascal Duprat.
On s'en fout pas.
Bah, j'imagine, l'OM qui a donc subi une défaite cruelle hier soir au Stade Vélodrome face à Lens, qui est resté pourtant sur 4 défaites de suite, un hold-up ou une sorte de hold-up avec une victoire lensoise acquise dans les dernières secondes. Un faux pas qui fait mal et qui pourrait compter au classement parce que Nice ce soir qui reçoit Lyon peut revenir à hauteur des Marseillais et le prochain match de l'OM c'est dimanche soir prochain face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Écoutez Roberto De Zerbi après la rencontre.
Ça n'a pas été notre meilleur match de la saison, c'est évident. Mais je pense que ce que nous avons fait était suffisant pour pouvoir l'emporter. Ils ont été une fois dans notre camp lors de la première période, 2 fois lors de la seconde. Nous n'étions pas à 100% physiquement, je pense notamment à Luis Enrique et à Greenwood. Il faut maintenant que nous gardions confiance. Nous faisons malgré tout une bonne saison. Il faut préparer le match contre le PSG maintenant, repartir, donner le maximum et être unis comme toujours.
Uniti ancora di più. Pascal, l'OM se met le feu. Quand on entend Roberto De Zerbi, ouais, qu'on n'est pas au top physiquement, ils n'ont qu'un match par semaine, ça peut surprendre en tout cas comme explication.
Ouais, c'est surprenant, mais bon, il gère son équipe, donc il est mieux placé que nous. Par exemple, il a mis Enrique et Greenwood sur le banc pour démarrer hier. Voilà, c'est son parti pris, mais il avait certainement ses raisons. Donc ce que je veux dire, c'est que bien sûr, il y a le match de Paris pour l'OM, il y a Nice qui talonne, mais il y a aussi ensuite, sur les 9 derniers matchs, aller à Monaco et aller à Lille. Donc, si les Niçois avaient la bonne idée de gagner contre Lyon aujourd'hui, je pense que la deuxième place pour l'OM,
c'est pas fait. Alors qu'il y a quelques jours, on se disait que c'était fait, Pascal, quand même.
Oui. Donc cette défaite contre Lens, elle est vraiment fâcheuse, oui.
Ok. Vraiment. Bon, les copains, on va passer à autre chose. On parlera de l'Olympique de Marseille dans cette émission. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est le départ de Paris-Nice aujourd'hui. On s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
J'ai peur avec Cédric Hémans. On s'en fout pas.
On s'en fout.
C'est comme ça qu'on intègre les GG.
Exactement. Je garde juste pour la fin.
Pascal Duprat.
Non, je m'en fous pas.
Oh, ok. Philippe.
On s'en fout. Merci, il est solidaire avec moi.
Attends, t'as déjà vu un rugby.
On n'a pas de physique pour faire du vélo, ouais.
Si, en descente.
C'est ce que j'allais dire, t'as déjà vu un rugby sur un vélo.
Si, il y en a plein, rugbyman, en descente.
Même les vélos disent non, montez pas sur moi. Alors oui, c'est le grand départ de Paris-Nice aujourd'hui, la 83e édition qui s'élance de Perret en Yvelines. On va retrouver justement Kevin Morand, notre envoyé spécial. Salut Kevin.
Salut Jean-Christophe, salut les GG.
Alors Pogacar n'est pas là, le grand favori, c'est évidemment Jonas Vingegaard.
Oui, en l'absence de ces deux rivaux du Tour, Tadej Pogacar qui a préféré l'Italie, on l'a vu hier, et Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard est le grand favori, même s'il a dit hier qu'il n'était pas dans sa top forme, mais pas en mauvaise forme non plus. Alors il a changé sa préparation en ne faisant pas de stage en altitude pour l'instant, mais sur le chemin de sa revanche l'été prochain. Il a donc coché Paris-Nice. Le Danois qui a remporté sa première compétition de la saison en Algarve n'a participé qu'une fois à la course au soleil. C'était en 2023. Il avait terminé troisième du général. Vingegaard a aussi dit hier que s'il ne pouvait pas gagner, il se sacrifierait pour son coéquipier Matteo Jorgensen, vainqueur en titre de Paris-Nice. Entre autres outsiders, il y a évidemment l'équipe UAE Emirates avec Almeida et McNulty qui avaient fini sur le podium l'an dernier.
Et puis on reparlera de Pogacar avec cette magnifique victoire sur les Strade Bianche quand même, alors qu'il avait chuté à 50 km de l'arrivée. Bref, on parlera de Tadej Pogacar. Et Kevin, chez les Français, il y a Julien Alaphilippe qui fait son grand retour sur Paris-Nice. C'est l'une des informations après 4 ans d'absence et avec sa nouvelle équipe donc.
Oui, Alaphilippe avait préféré ces dernières saisons les courses italiennes. L'an dernier, il n'avait même participé à aucune course par étape dans l'Hexagone. Alors l'une des coqueluches du cyclisme français revient alors que sa nouvelle formation, Tudor, attend toujours de savoir si elle sera invitée sur le prochain Tour de France. Écoutez justement Julien Alaphilippe hier, détendu par rapport à tout ce contexte.
Ça change rien, je pense qu'on est bien occupé avec toutes les courses et bien sûr on attend avec impatience, mais tour ou pas tour, ça change strictement rien à mes prochaines semaines et je me sens juste très bien là où je suis. C'est chouette d'avoir ce rôle de leader mais aussi de coureur d'expérience et en tant que coureur français, c'est toujours chouette pour moi de revenir sur ces courses-là. Bien sûr, on peut vite faire le rapprochement en pensant au tour, mais c'est pas l'idée, en tout cas moi je pense pas encore au tour et je suis focus sur Paris-Nice.
Et il y aura aussi de la curiosité cette semaine pour les autres transfuges tricolores de l'hiver. Guillaume Martin, leader de la groupe AMA FDJ, Lenny Martinez du côté de Bahrain Victorious. Un mot enfin sur Romain Bardet, vous le savez, pour sa dernière saison de carrière professionnelle. Il a dû déclarer forfait hier, pas suffisamment rétabli d'une chute il y a 15 jours.
Merci beaucoup Kevin Morand pour ces précisions. Évidemment, la première étape de Paris-Nice, c'est à suivre aujourd'hui. C'est vrai que Cédric, c'est une étape promise aux sprinteurs. Hein. Oui. Non, je blague.
Pourquoi je pouvais répondre, non ? J'allais répondre. J'allais sortir un truc, sans intérêt. J'allais plonger, ouais. Ça y est. Merci. Bisous, ça y est.
Le bisoutage est fait.
C'est beau parce que.
Il allait pas s'échapper. Hein.
Il allait pas s'échapper. Exactement. Ouais. Bravo. Et ça t'honore, mon cher Cédric. Quand on dit je m'en fous, vous n'avez pas le droit à la parole. Donc évidemment, j'allais
Cédric,
pas te penser.
Cédric, t'aurais pu répondre enfin du suspense. Ah parce oui. qu'il n'y a pas Pogacar. Donc.
Ah oui, c'est vrai.
Donc, voilà,
vrai.
On peut regarder.
Mais c'est ce que j'avais prévu, Pascal. Mais on m'a pas laissé ça.
Allez, troisième information rapidement à vous donner. Dans le zapping des GG, c'est Alexis Pinturault qui va bien poursuivre sa carrière. On s'en fout pas. Simon Dutin.
Je m'en fous, j'attendais cette décision.
Ok, très bien. Philippe.
Je ne m'en fous pas.
Ok, Pascal.
Ah non, je m'en fous pas.
Ouais, Cédric.
Ouais, toujours pareil. Hein. Ouais, très bien. Je suis un comique de répétition.
Alors, vous savez, il a été victime le 24 janvier dernier à Kitzbühel d'une grave chute, une fracture du plateau tibial interne du genou droit. Et Alexis Pinturo a confirmé ce vendredi qu'il souhaitait revenir sur le circuit la saison prochaine. Mais attention, il ne veut plus se lancer dans la vitesse. Hein. C'est vrai qu'il avait pris un tournant, un virage dans sa carrière. Maintenant, il veut se consacrer aux géants la saison prochaine avec pour objectif, évidemment, les Jeux Olympiques. On l'écoute.
Je me suis blessé la deuxième fois. La première réponse, c'était est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue? Pourquoi est-ce que je continuerai? Il y a quand même aussi la belle perspective des Jeux Olympiques. Après, il fallait trouver surtout l'envie. Elle est plus facilement revenue en voyant le diagnostic, en voyant que la blessure n'est pas finalement très grave, ou en tout cas, elle est très loin d'être aussi grave que ce que j'avais pu connaître l'année dernière. Là, je peux déjà entrevoir un retour sur des skis d'ici un mois et en principe sans douleur pendant toute cette période. Alors que des douleurs sur le genou gauche, j'en ai eu pendant plus d'un an. Et après, pourquoi finalement un an? C'est parce que j'ai fait le tour de mon sport. Aujourd'hui, je suis motivé par le fait de revenir et de pas finir sur une blessure. Je suis motivé par le fait qu'il y a aussi les Jeux Olympiques. Mais après, je pense qu'il y a aussi un temps pour tout. Il est fort probable que je me tourne du coup sur d'autres orientations et d'autres motivations.
Bon voilà, c'est une très bonne nouvelle pour Alexis Pinturo. C'est vrai, Cédric, le fartage n'était pas exceptionnel.
Vous devriez voir. Par contre.
Dommage que ce soit juste de la radio, parce que le regard que m'a lancé Cédric.
J'ai failli en dire sur au-dessus de la tête.
Fais attention, il peut être violent aussi. Ouais. Hein. Ouais, attention, alors, pour ce qu'il a fait, tu vas voir quand même.
Écoute, une fois ça va, deux fois
tu vas revenir qu'à trois sur le plateau.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grande Gueule du Sport, le bras de fer des GG, le Paris Saint-Germain qui va défier Liverpool. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que les Parisiens? Je vous pose la question et vous n'êtes pas d'accord les GG. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les Grandes Gueules du Sport.